Et on commence tout de suite la chronique histoire en compagnie d'Olivier. Coucou Olivier.
Coucou Cyrielle, bonjour à toutes et à tous.
On a commencé la dernière fois à parler de Joseph Darnand. Aujourd'hui, tu vas continuer à nous en parler car il y a pas mal de secrets encore qu'on ne sait pas.
Oui, je dois vous avouer que j'ai hésité longuement à vous en reparler. Je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas une petite pause pour parler attentat ou autre d'un point de vue historique, mais je me suis dit non. Poursuivons avec Joseph Darnand, on évoquera à la suite un autre moment. Alors, Joseph Darnand, si tu devais dire deux mots déjà, qu'as-tu retenu ?
Eh bien, qu'il était le premier soldat de France.
Voilà,
j'ai bien retenu ça, mais je me rappelle aussi comme quoi il a eu quelques hics dans son histoire, notamment éventuellement les SS.
Oui. Alors, si on résume à très grands traits, effectivement, c'est cet homme nommé premier soldat de France à l'issue de la Première Guerre mondiale. Mais c'est aussi un homme qui est surnommé l'apôtre de la haine, le bourreau des Français. Et si on devait faire un bref retour pour que tous nos auditeurs se souviennent, eh bien, c'est un engagé volontaire pendant la Première Guerre mondiale qui va monter très rapidement les échelons de sous-officier. En 1916, il est caporal, sergent en juin 1916, adjudant l'année d'après. L'armée lui a plu. Dans l'entre-deux-guerres, il va être un homme qui va tomber un petit peu dans les extrêmes. Il va tomber dans l'Action française, puis les Croix de feu, et enfin ce qu'on a appelé la cagoule. Et enfin, Seconde Guerre mondiale, engagé volontaire. Il essuie les premiers tirs à Forbach avec l'armée allemande, nommé premier soldat de France, et puis il fait prisonnier, il s'évade et on le retrouve en zone libre.
On s'était arrêté là la semaine dernière. Il est devenu quoi après cette évasion un peu rocambolesque du camp de Pithiviers ?
Oui, ben on va le retrouver dans les Alpes-Maritimes. Et là, il va prendre la tête de ce qu'on appelle à l'époque la LFC, la Légion française des combattants, et donc il prend la tête pour le département des Alpes-Maritimes.
Qu'est-ce que la LFC ?
Alors c'est quoi ? En fait, je vous avais parlé la semaine dernière de la véhémence, de la volonté des anciens combattants de se battre. Hein. Anciens combattants, pour nous, c'est synonyme de personnes âgées. À l'époque, pas du tout. Hein. Ils sont très jeunes et ils sont une arme. Alors pour ce faire, le régime de Vichy va tous les fédérer sous la forme d'une légion, hein, si j'ose dire, et avec quelques objectifs bien précis, notamment un qui vraiment nous intéresse, qui est assurer la collaboration à l'œuvre des pouvoirs publics. Donc en gros, assurer la collaboration tout simplement. Voilà, donc l'adhésion est volontaire, mais elle sera réservée au début, hein, du moins, aux anciens combattants. Et surtout, chaque membre a un serment personnel qui le lie au maréchal. Alors je vous en lis une ligne. Hein. Je jure de continuer de servir la France avec honneur comme je l'ai servi sous les armes. J'accepte librement la discipline de la Légion pour tout ce qui me sera commandé en vue de cet idéal.
Darnand, quelle importance dans ce contexte ?
Eh bien, Darnand, il va avoir une importance assez forte, hein, parce que sans lui, on a envie de dire qu'il n'y aurait pas eu forcément cette légion. Il va permettre la diffusion en zone occupée et vraiment il va avoir un rayonnement très conséquent. On va parler alors d'un changement de nom parce qu'on parlera du service d'ordre de la Légion. Et derrière ce mot, hein, c'est tout un programme, béret alpin, chemise kaki de l'armée, pantalon et cravate noire en signe de deuil puisque la France a perdu. Et bien sûr un brassard où des symboles identitaires vont se développer. Alors c'est le casque gaulois et puis c'est le bouclier.
Quelles sont ses orientations et puis ses pensées à l'époque ?
Ah ben, la réponse est simple. Hein. Je vais vous citer quelque chose qui va vous faire comprendre ça tout de suite. Hein. Je vais vous citer le champ identitaire de ce groupe paramilitaire. Alors, dans la sixième strophe, il est dit « Service d'ordre de la Légion, faisons la France pure, bolchevique, franc-maçon, ennemi, Israël, ignoble pourriture, écœuré, la France vous vomit. » Tout un programme.
Comment expliquer que des anciens combattants vont se battre aux côtés de l'Allemagne nazie dans une politique de collaboration ?
Ah, sacrée question, hein. Alors, on ne va pas la résoudre en deux coups de cuir à peau, si j'ose dire, mais parce qu'en fait, c'est une sorte de schizophrénie qui leur arrivait. Hein. Jusqu'en 1940, on se bat contre les nazis, et puis ensuite, d'un coup, en 1940, on se met, je ne vais pas dire à les aimer, mais il y a une politique de collaboration très forte qui s'installe. Mais je pense qu'il y a quelques éléments de réponse qu'on peut donner sans trop se tromper. Et le premier d'entre eux, c'est parce que, bah, tout simplement, il fallait avant tout se dresser contre les ennemis du maréchal Pétain, et donc, bah, du coup, bien sûr, contre De Gaulle et les résistants. Hein, donc, déjà, l'idée de se battre contre les résistants fait que nazis et collabos se retrouvent. Il faut aussi rappeler qu'en 1942, toujours dans la même idée, Darnand, qui prend la tête de cette milice, va rencontrer le maréchal très fréquemment. Hein, c'est un inconditionnel du maréchal. Et puis, il y a une deuxième chose, hein, et qui nous renvoie directement au passé de Darnand, c'est que Hitler est en train de perdre la guerre face aux Russes. C'est la fameuse bataille, un petit peu la conquête russe qui échoue. Et la Légion de Darnand va donc très naturellement s'allier à Hitler, parce qu'il ne s'agit pas d'aider Hitler plus que ça, mais il s'agit surtout de ne pas tomber dans le bolchevisme. Hein. Rappelez-vous, Darnand est un anti-bolchevique, hein, et il va choisir vraiment le moindre mal.
Quel est l'avenir donc pour ce service d'ordre de la Légion ?
Alors, ce service va devenir la milice française. Alors, ce changement de nom n'est pas anodin, parce qu'on peut aussi également parler de police de Vichy, si vous préférez. Et ça, c'est fin 43, début 44 environ. Et donc, ça va être tout un programme. Hein. Dans son organisation, on va parler d'un service de propagande, un service de sécurité, un service de finance, un service de renseignement, etc. etc. Alors, je vous laisse imaginer quelle latitude ce service aura, quelle latitude cette milice va avoir et surtout quelles politiques vont être appliquées. Hein.
Et pour un petit peu conclure là-dessus, dernière partie sur Darnand, peut-on parler de son attitude pour le moins ambiguë, j'aimerais dire, avec la résistance ?
Ah ben, ambiguë, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Si on remonte un peu dans le temps, en 1942, Darnand va s'entretenir discrètement avec un chef de l'armée secrète, il va lui proposer des armes, etc., un petit passage par les alliés, enfin bref, ça n'ira pas plus loin. En 43, le bruit va courir à Londres que Darnand va rejoindre la résistance. Et Jean Moulin lui-même, hein, Rex, si on reprend son nom de guerre, va demander à ce qu'on prenne cette info avec beaucoup de considération, va envoyer quelqu'un rencontrer Darnand. Et puis il faut dire aussi que le contexte explique beaucoup de choses. Hein. Novembre 42, c'est l'opération Torche, hein, c'est-à-dire le débarquement allié en Afrique du Nord. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a installé beaucoup de perplexité, même chez ceux qui sont inconditionnels du maréchal. Hein. Et enfin, juillet 43, Darnand va être obligé, et c'est là où son attitude sera la plus ambiguë, ben Darnand va en être réduit à réclamer des armes aux nazis, hein, pour que la milice se protège, parce que de plus en plus de partisans, de plus en plus de résistants vont descendre des miliciens. Et ben, pour obtenir ces armes que le gouvernement de Vichy ne peut lui donner, parce que le gouvernement n'en a pas, et ben, il va accepter de devenir un SS français.
On est donc passé de Darnand ancien combattant à Darnand SS. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le sujet ?
Voilà, dit comme ça, effectivement, c'est vrai que ça, c'est le raccourci est énorme, mais c'est tellement ça en même temps. Hein. Alors, si on plante un peu le décor, hein, parce que l'histoire, c'est aussi des images, hein, c'est en août 43, il faut s'imaginer un appartement parisien, quelques hauts gradés avec leurs uniformes d'apparat, et puis vous avez un Darnand qu'on va invité à prononcer le serment de fidélité à la SS, qui est un serment de fidélité personnel à Hitler. Hein. C'est quelque chose de très fort. Alors le plus paradoxal ensuite sera qu'on lui proposera juste après, sur forte recommandation allemande bien sûr, hein, le statut de membre de gouvernement chargé du maintien de l'ordre. Alors c'est tout un programme. Hein. Et donc Darnand SS, qui n'en menait quand même pas large, hein, parce qu'il ira très loin là-dessus, il dira lui-même à son procès que le maréchal ne lui aura fait aucun grief de ce serment SS. Hein. Le maréchal ne lui en tiendra absolument pas rigueur, comme quoi hein, ça laisse quand même songeur. Eh bien, ça va l'obliger en 1944 à la fuite. Le maréchal s'enfuit en Suisse, Darnand, lui, il s'enfuit en Allemagne. Et il va y rencontrer Hitler avec quelques autres membres du gouvernement. L'objectif est simple, hein, c'est Hitler doit choisir, et j'insiste sur le mot choisir, le chef du gouvernement provisoire qui remplace le maréchal Pétain. Et Darnand était l'un des candidats en lice, si j'ose dire. Alors la terreur va envahir les miliciens, bien sûr, hein, parce que ils savent pas trop qu'est-ce que ça va donner, ils savent pas trop où est-ce qu'ils vont, hein, parce que l'Allemagne régresse. Et ben les options qui s'offrent à eux, c'est pas violent, hein, c'est soit les tribunaux d'épuration français, soit la défaite allemande, ou bien le camp de concentration russe où la vie est loin de s'annoncer tout rose et vraiment ils hésitent, ils savent pas trop où aller, certains veulent s'enfuir en Suisse. Et puis finalement l'histoire s'arrête brutalement parce que Hitler leur demande d'aller aider Mussolini en Italie et ils sont arrêtés finalement par des résistants italiens. On va laisser à Darnan l'occasion d'une dernière revue militaire où il va dire au revoir à ses miliciens. Et puis il va s'éclipser discrètement, il va essayer de se faire la belle comme on dit, de partir vers l'Amérique du Sud, mais il sera arrêté à Milan.
Que s'est-il passé à la fin ?
Mais à la fin, c'est pas joyeux, hein. La fin c'est la prison de Fresnes, parmi 5000 autres collabos. C'est une avocate de la petite enfance qui a été obligée de le représenter mais qui va refuser, qui va prendre des vacances. Il a 48 ans Darnan, il n'est pas vieux. On l'accuse d'intelligence avec l'ennemi en temps de guerre, d'incitation à l'enrôlement dans les forces étrangères. Et c'est vrai que, mine de rien, la SS Charlemagne, hein, c'est comme ça que s'appelait le groupe SS français, il va pousser ses miliciens à y rentrer. C'est aussi également le fait qu'on lui reproche d'avoir participé à une entreprise de démoralisation, bien sûr, etc., etc. On va le rendre responsable d'autres griefs beaucoup plus pragmatiques, si j'ose dire, à savoir des interrogatoires poussés dans le casino de Vichy. Autant les nazis avaient, eux, un certain nombre d'hôtels particuliers où ils faisaient parler, autant la milice avait aussi ça, malheureusement. Et ça va être également un certain nombre de massacres de juifs qui vont lui être imputés, et c'est des exécutions sommaires également, etc., etc. On va quand même lui prêter deux circonstances atténuantes. Et je dis atténuante avec beaucoup de guillemets, hein, c'est l'aumônier militaire des forces françaises de l'intérieur, donc les forces libres, qui va lui trouver deux circonstances atténuantes en témoignant. La première, c'est le choc de la défaite de 40, hein, qui va le pousser d'une certaine manière à faire mieux, à essayer de redorer le blason de l'armée française, quitte à s'allier avec le diable. Et la deuxième circonstance atténuante, c'est on lui accorde le fait qu'il a suivi aveuglément un vieillard qui a perdu le sens des réalités, à savoir le maréchal Pétain, bien sûr. Donc c'est un petit peu compliqué, mais voilà, on lui prête quand même ces deux circonstances atténuantes.
Bon, ça pas suffi.
Non, ça le sauvera pas, hein, clairement. À 20h15, à l'unanimité, il sera condamné à mort. Et le 8 octobre 1945, sa grâce, qui est présentée par ce même aumônier des forces françaises de l'intérieur, est rejetée par De Gaulle. Petite parenthèse d'ailleurs, si on a le temps, on a deux secondes.
Oui, on a deux secondes.
Alors, petite parenthèse, cet aumônier des forces françaises de l'intérieur, donc qui est avec De Gaulle, hein, qui soutient De Gaulle, mais qui va témoigner en faveur de Darnan, hein, c'est un petit peu contradictoire, hein, mais en fait ça n'est pas tant que ça, c'est parce que tout simplement, et c'est malheureusement les hasards de l'histoire, cet aumônier sera sous les ordres de Darnan lorsque on est pendant cette drôle de guerre et qu'on se bat du côté de Forbach en 1940, lorsque Darnan est encore, entre guillemets, dans la légalité, si j'ose dire. Voilà, le 10 octobre 45, ça va un petit peu s'agiter dans la cellule 57 de la prison de Fresnes. Le condamné à mort voit sa grâce rejetée, il communie, il se confesse, et à 9h40, selon un titre de journal, l'apôtre de la haine est mort.
Merci beaucoup Olivier.
Merci à vous.